Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Comment gérer ma colère? Quelle est la meilleure façon d'atteindre la paix et le bonheur? Comment faire face aux situations difficiles auxquelles je suis confrontée? Les plus grands philosophes de l'Antiquité se concentraient déjà sur ces questions qui continuent de nous habiter. Dans un monde en constante mutation où les incertitudes et les défis sont de plus en plus nombreux, la résilience est devenue une compétence vitale pour affronter les difficultés quotidiennes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christopher Lachiez, philosophe, conférencier et spécialiste en analyse comportementale. Il est l'auteur de « Guérir l'impossible », une philosophie pour transformer nos souffrances en force, paru aux éditions Guitré Daniel. Dans cet ouvrage, vous découvrirez 21 fondements philosophiques essentiels pour développer votre résilience. En abordant la psychologie, la science, la sagesse, la spiritualité et en revenant sur les traumatismes qui nous entravent, ce livre est un guide pratique et unique en son genre pour tous ceux qui cherchent à vivre de manière plus apaisée, consciente et épanouissante. Bonjour Christopher et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci à toi.
Dans ton ouvrage « Guérir l'impossible » paru chez Guitré Daniel, tu partages avec nous comment guérir ce qui nous paraît inguérissable et transformer nos souffrances en force. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la philosophie et à l'utiliser à cette fin?
Alors, j'ai pas comme prétention de vouloir guérir quelque chose qui est impossible, comme par exemple... Il y a plein d'exemples différents qui nous montrent qu'aujourd'hui, ben, les sciences ou autres n'ont pas, ben, justement, les capacités de pouvoir guérir des choses qui, c'est pour ça qu'on se bat, d'ailleurs, hein. Le cancer et d'autres maladies, quand même, il y a beaucoup d'évolutions aujourd'hui. Bon, ben, il reste des maladies comme l'Alzheimer où on n'a pas encore de solution. Donc c'était pas vraiment cette optique-là. C'était plutôt guérir la notion d'impossibilité. C'est-à-dire que, à certains moments, ben, des choses nous paraissent complètement irréalisables et au final, elles le sont bien plus qu'on peut l'imaginer. Et donc c'était plutôt dans cette optique que je voulais vraiment amener ce livre. Moi, j'ai vécu à l'âge de 20 ans une dépression vraiment état clinique profonde. Et c'est, on va dire, mon lien avec la philosophie, la littérature, cette grande découverte, cette révélation, qui a fait que j'ai réussi à mettre une forme de sens à mon existence qui m'a permis de pouvoir évoluer dans la bonne direction là où tout me paraissait complètement impossible. Et donc, c'était dans cet intérêt-là que j'ai écrit ce bouquin. C'est pour les personnes... En fait, c'était pour une personne comme moi qui avait vécu ce moment-là. J'aurais aimé tomber sur ce livre à ce moment-là pour pouvoir justement aller un peu mieux. Et donc, c'était une des grandes raisons voilà, pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin.
Et pourquoi est-il primordial de développer notre intelligence émotionnelle?
Alors, on est constamment confronté au monde, aux gens, aux choses. On est constamment confronté à des relations interpersonnelles et c'est ces relations qui nous amènent constamment à vivre tout type de sentiments, d'émotions, de ressentis, dans l'entretien même des fois le ressentiment, hein, comme la jalousie, la rancune ou autre. Et il faut réussir à comprendre comment nous fonctionnons. En tout cas, de se rapprocher un maximum pour pouvoir ben, entretenir un rapport au monde qui va être le plus sain possible. En réalité, on est souvent en train d'accuser les gens de ce qu'on vit et en se disant il faut se recentrer sur toi, il faut revenir sur soi-même, il faut voilà rentrer un peu dans cette quête individualiste que moi je ne rejoins pas du tout pour le coup, où j'ai plutôt cette idée de me dire non, au contraire, puisqu'on est en confrontation avec des gens constamment et que c'est grâce à eux que notre identité se construit, que on a un rapport au monde qui va être plus ou moins naturel. Eh ben, comment est-ce que je peux agir et me sentir le mieux possible? C'est pas évident de vivre une bonne vie, comme disaient les Grecs. Et c'est justement ce rapport à cet entretien émotionnel qui nous fait qu'à certains moments, ben, on arrive à mieux les gérer que d'autres. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important de développer cette partie, cette intelligence autour de l'émotion, dans le sens où, il faut pas en être dépendant.
Et justement, dans ton ouvrage, tu dis qu'on peut avoir peur de se confronter à ce que l'on ressent. Pourquoi justement on peut avoir cette peur?
Alors déjà, ça peut nous rappeler des choses. Il peut y avoir un rapport à notre passé. C'est-à-dire que si ce qu'on ressent est intimement relié à l'habitude qu'on a de ce qu'on ressent, alors à ce moment-là, ben notre rapport aux choses va être plus complexe. Parce que l'inconvénient, en réalité, c'est pas qu'on se rappelle de ce qu'on ressent, mais c'est qu'on est dans l'incapacité de l'oublier. C'est ça le problème. C'est que vu qu'on n'est pas capable d'oublier ces événements passés, qui nous ont fait vivre de la peur ou tout type de ressentiment. Donc, un ressentiment nietzschéen, c'est j'entretiens un ressentiment, c'est de la surenchérie. C'est surenchérir de la souffrance sur de la souffrance. Et c'est parce que je ne suis justement pas en capacité de pouvoir oublier ça. Et donc, on va être confronté à des situations qui vont nous rappeler ce qu'on a vécu directement ou indirectement et donc anticiper des situations à venir. Mais être complètement dans l'illusion. Parce qu'en fait, je vais anticiper une situation. Tu sais, Montaigne disait, ma vie a été faite de terribles malheurs qui ne se sont jamais produits. Ben, en fait, c'est exactement ça. Lorsque l'entretien ce ressentiment, ces peurs, ces angoisses profondes, face à quelque chose qui est inévitable, ou du moins à quelque chose qui est inévitable dans le sens où il provient de ma pensée, c'est une construction psychique, eh bien, je souffre d'événements qui ne se produiront jamais. Et donc là, il y a ce rapport à la mémoire de, il faut réussir. En fait, c'est là le grand paradoxe. Lacan le disait très bien. Il faut réussir à se rappeler de ce qu'on n'arrive pas à oublier. Alors, c'est drôle. Comment on peut se rappeler de ce qu'on n'arrive pas à oublier? Eh bien, notamment quand on voit le stress post-traumatique, c'est des informations qui sont enfermées dans l'amygdale, qui ne peuvent pas être traitées par l'hippocampe, donc pas être traitées dans la mémoire. Et de ce fait, on est prisonnier de quelque chose qu'on ne se rappelle pas, mais qui est complètement, qui nous enferme complètement. C'est-à-dire que j'en ai fait un déni. De ce déni, je me suis protégé. Le déni, c'est une action de protection complète. J'en ai fait un déni. De ce déni, justement, je décide de ne pas m'en rappeler. Mais pourtant, cette chose que je n'arrive pas à me rappeler, eh ben, est constamment, dans la possession de ce que je suis. C'est-à-dire, est constamment en train de me soumettre au monde. Et donc, il y a ce rapport. On n'arrive pas, on n'a pas envie de se rappeler de ça. On n'a pas envie de s'en rappeler, mais en même temps, il faut s'en rappeler pour pouvoir mieux l'oublier.
Et c'est pour ça qu'on vit sans cesse, en fait, des événements qui se répètent, en fait, finalement.
Oui, complètement, complètement. Il y a aussi ce rapport à l'interprétation, c'est-à-dire que on va avoir des grands biais de confirmation de se dire, OK, je me mets toujours avec, admettons, je tombe toujours sur le même style de relation sentimentale. Je tombe toujours, j'ai une amie à moi qui me dit, moi, je tombe toujours sur des connards, quoi. Je dis, mais comment tu te débrouilles? Elle me dit, ben, je sais pas, je tombe toujours sur le même style de personne, j'en ai marre. Parce qu'en fait, la représentation et l'idée qu'elle a de l'homme, elle le calque à toutes les autres personnes qu'elle rencontre. Donc, au final, elle ne rencontre jamais la même personne. Par contre, elle rencontre toujours la même idée qu'elle a de ces personnes-là. De ce fait, on vit toujours les mêmes schémas dans ce sens-là. C'est une forme d'éternel retour de quelque chose qui est inévitable. Et c'est à partir du moment où on change l'idée qu'on a des choses, qu'au final, on se rend compte que ben, on vit constamment des choses différentes, mais que l'idée a changé, donc du coup, je ne suis plus dans un schéma répétitif. Sans évidemment compter cet aspect autodestructeur qu'on a de se mettre dans des situations délicates pour justement revivre quelque chose qu'on essaie de fuir, à la Oedipe un petit peu. Donc, mais là, dans l'idée, c'est vraiment ça, c'est plutôt essayer de modifier l'idée qu'on a des choses plutôt que de changer la chose en soi.
Ouais, complètement. Et dans ton ouvrage, tu dis très justement que nous oublions un principe fondamental qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'être humain. Il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Pourrais-tu nous en dire un peu plus?
Oui, ça c'est un concept stoïcien, provient d'Épictète, qui nous dit que voilà, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Alors, à quoi ça sert de savoir ça? Eh ben, ça sert à avoir une meilleure maîtrise de soi. La maîtrise de soi, pour les stoïciens, c'est une vertu. Et c'est une des plus grandes vertus. Il faut réussir à se maîtriser face au monde. Ce qui dépend de nous, c'est quoi? Ce sont nos pensées, nos idées, nos perceptions, nos émotions. Nos émotions ne dépendent pas vraiment de nous, mais plutôt, on va dire, l'intensité et les réactions qu'on va avoir envers nos émotions. Et puis, il y a ce qui dépend pas de nous, c'est-à-dire tout le reste. Et donc, il faut réussir à se concentrer sur ce qui dépend de nous, sans se couper du monde. Ça ne veut pas dire se couper des autres. Généralement, on a tendance à aller vachement rapidement dans l'extrême. Et le côté intéressant, il est ici. C'est-à-dire que je suis confronté au monde. Dans mon rapport au monde, j'ai un rapport de moi avec l'autre. Rimbaud disait « je est un autre ». Il y a aussi une extension de soi dans l'autre. Et cette extension de soi me fait justement, à certains moments, faire ressentir tout type d'émotions, de sentiments qui sont plus ou moins dérangeants, qui sont plus ou moins néfastes en fonction de différentes situations. Maintenant, les stoïciens, ils nous invitent à rester évidemment stoïques, mais pas stoïques dans le sens où on ne ressent rien, stoïques dans le sens où on sait ce qu'on fait de ce qu'on ressent. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que on peut contrôler nos perceptions qu'on a des choses, on peut contrôler, comme je disais juste auparavant, les idées qu'on a des choses, on peut contrôler la façon de réagir à nos émotions. Par contre, on peut pas nier ou renier ou essayer de faire un déni de ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire ce qu'il y a autour, et les émotions en font partie.
Alors, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais dans ton ouvrage, tu dis que nous répétons inconsciemment le même schéma jusqu'à comprendre ce que nous refusons. Qu'entends-tu par là ?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Il y a ce qu'on nie nous soumet. Ouais. Donc, il faut réussir à comprendre ce qu'on refuse, c'est-à-dire ce qu'on nie. Qu'est-ce qu'on nie de notre histoire qui est en permanence en train de nous soumettre au monde ? Tu sais, cette personne qui a toujours envie d'arrêter de fumer, mais qui n'arrive pas à arrêter de fumer. C'est plus fort qu'elle. Elle sait que la cigarette, c'est pas bon pour elle, mais pourtant, elle n'arrive pas. C'est plus fort qu'elle. C'est-à-dire que le désir, c'est-à-dire que là, elle est bien... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un savoir. C'est qu'il y a d'abord un savoir, et puis il y a une volonté de nier. Pour nier, il faut d'abord que je sache. Si je sais pas, je peux pas nier. Parce que je le sais pas. C'est une ignorance, à la limite. Mais il faut d'abord que je sache une chose pour pouvoir la nier. Et c'est lorsque je sais que, la cigarette, admettons, c'est pas bon pour moi, je préfère nier mon rapport à la cigarette, ne pas en parler, tu vois, fermer les yeux sur la cigarette et de me dire, on verra ça plus tard, pour l'instant, ça me fait du bien, jusqu'au jour où j'ai un cancer. Jusqu'au jour où j'ai un cancer des poumons, je me dis, ah, si j'avais su, j'aurais arrêté la cigarette. Et c'est ici que c'est intéressant, c'est-à-dire que on préfère nier du simple fait qu'on le sait. Et on est confronté constamment à ce grand dilemme, c'est qu'on est en incapacité de voir ce qu'on a sous les yeux et de savoir ce qu'on sait, parce qu'on est constamment en train de vouloir le refuser.
Non, mais une sorte de couvercle en quelque sorte, quoi. Ouais.
C'est ça, on met un couvercle parce que c'est indésirable, parce que c'est jamais comme on aimerait qu'il soit. Ou alors on sait que ça va pas, mais on préfère pas en parler parce qu'on préfère fermer les yeux. Tu sais, c'est Clément Rosset, il prend un exemple qui est génial. C'est un super philosophe, Clément Rosset, qui a écrit un livre qui s'appelle Le réel et son double. Il en a écrit plein d'autres, mais il est pas très très connu, mais ses théories sont monumentales. Et il nous dit comment, lorsqu'on voit rouge, un conducteur de camion qui s'arrête à un feu, il voit que c'est rouge et il décide de passer. Comment ça, c'est rouge et il décide de passer? C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre ce qu'il voit et ce qu'il décide de faire face à ce qu'il voit. Et donc, en fait, il sait que c'est rouge. Et on sait que quand c'est rouge, il faut s'arrêter. Alors, comment ça se fait que lui, quand c'est rouge, il a décidé d'avancer? Tu vois? Eh ben, c'est ce rapport-là au monde, c'est ce rapport-là aux choses. C'est qu'à certains moments, on sait les choses, mais on en prend des décisions qui sont contraires au savoir qu'on en a.
C'est tout le paradoxe de l'être humain.
Voilà, c'est ça.
Dans ton ouvrage, tu abordes 21 fondements philosophiques pour atteindre la guérison émotionnelle. Si tu es d'accord, je te propose d'en prendre un au hasard. Je vais ouvrir ton ouvrage. Je suis tombée sur le fondement numéro 13. Imaginer sa vie comme si l'on était un revenant. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus ?
Notre rapport à la mort, oui. Alors, exactement. C'est-à-dire, imaginez notre vie comme si on était un revenant. On a tous déjà entendu sûrement des expériences de certaines personnes qui sont revenues d'une expérience de mort imminente, qui sont revenues où une partie d'eux est intimement morte face à une expérience. Vivre comme un revenant, ça veut dire que la mort, on l'a déjà passée. On l'a déjà passée dans le sens où on a conscience d'elle. À partir du moment où j'ai conscience de ma finitude, que j'ai conscience que je suis jeté dans un monde avec la seule certitude que je vais mourir, ça me permet de mieux apprécier la vie. Et tu sais, la mort, c'est un sujet qui est extrêmement tabou aujourd'hui en France et dans notre culture occidentale. Il faut pas trop penser à la mort. Sauf que penser à la mort, c'est intimement penser à la liberté. C'est parce que j'ai conscience de cette fin qui est inévitable que justement je suis en capacité de vivre. C'est parce que les choses meurent que les choses vivent. Si les choses étaient constamment dans une vie éternelle, notre rapport au monde serait différent. C'est-à-dire que si on vivait éternellement, à la Dorian Gray par exemple, c'est notre portrait qui vieillit à notre place, ben toutes nos valeurs n'auraient aucun sens. On se ficherait de nos valeurs, on se ficherait de l'éthique, on se ficherait de notre rapport aux autres. Enfin voilà, on se ficherait de notre rapport à l'argent, même à l'argent. Ou peut-être pour avoir le plus de luxe possible en tant que bien matériel, mais pas en tant que bien nécessaire. C'est-à-dire en tant que repas, manger. On sait qu'on meurt pas, dans tous les cas. Donc, tu vois, si on est éternel, tout notre comportement change. Et donc, on vit comme si la mort n'arrivera jamais. Mmh. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, en quelque sorte. On préfère ne pas penser à la mort, fermer les yeux pour justement se dire, on verra ça plus tard quand on vieillira. Alors qu'en l'occurrence, plus je vais avoir conscience de ma mortalité, plus je vais être en capacité d'apprécier la vie. Mmh. Et donc, vivre comme si j'étais un revenant, c'est vivre comme si j'avais déjà traversé la mort afin de d'autant plus en apprécier l'existence.
Et puis finalement, c'est une invitation à revenir ici et maintenant, finalement, et vivre le présent, parce qu'au final, tu es là aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas. Non, du coup, tu profites effectivement de cet instant-là, sans te projeter, en fait.
Peut-être. Mmh. Mais complètement, complètement. C'est-à-dire, il faut, pour apprécier le présent, il faut non seulement être en relation avec notre passé, donc vivre avec notre passé, mais aussi ne pas être forcément tout le temps dans l'anticipation illusoire de faits à venir. Mmh. Cette anticipation constante nous crée plus de troubles qu'autre chose. On souffre plus de l'imagination que de la réalité, disait Sénèque. Ben, on est vraiment là-dedans, quoi. C'est exactement ça. C'est qu'on souffre plus de l'imagination qu'on va avoir des choses à venir, d'une possible anticipation de quelque chose, alors qu'en réalité, cette chose-là n'est pas là et peut-être ne sera jamais. Donc, autant profiter ce qu'on a. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut rester que dans le présent. Parce que, tu vois, notamment neurologiquement parlant, psychologiquement parlant, notre cerveau, de manière très naturelle, va anticiper. C'est-à-dire notre cerveau anticipe de manière active, mais nous on le ressent de manière passive. D'où l'anxiété. D'où le fait qu'on subisse l'anxiété et qu'on ne crée pas l'anxiété. On la subit parce que notre cerveau agit de manière active. Par exemple, on reçoit un colis, le colis est par terre. Et ben notre cerveau va avoir une suite d'interprétations qui va nous permettre de pouvoir soulever le colis avec le poids parfait. Tu sais, on prend le colis par terre, on ne sait pas quel poids il fait, mais pourtant on arrive à trouver le poids parfait, à le soulever et que tout se passe nickel. Donc il y a une suite d'anticipations très courte que nous on a subi du simple fait qu'on n'a pas pensé à ça. C'est quelque chose qui se fait naturellement, qui nous fait mettre le juste poids au juste moment. Et donc c'est un peu les mêmes analogies avec nous. C'est trouver la juste anticipation du juste moment. Tu vois? Sans être dans le fait de se dire « Oh là là, le colis va être tellement lourd que je vais jamais réussir à le porter » et au final se rendre compte qu'il est vide. Tu vois, c'est un peu ça l'idée.
Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange ?
Je dirais une phrase de Victor Hugo, que la liberté commence où l'ignorance finit. Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite activement à développer vos connaissances sur un maximum de sujets, vous nourrir des gens, vous nourrir d'expériences, développer un esprit critique, aller vivre d'autres vies à travers des livres notamment, aller voilà lire un maximum, expérimenter et rentrer en rapport tout en se coupant de chaque certitude. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'homme intelligent est celui qui se rend compte de sa débilité, là où l'homme débile est celui qui est sûr de tout savoir. Et donc, c'est vraiment là-dedans et que la liberté, c'est la connaissance dans le sens où c'est une connaissance de notre ignorance et une connaissance aussi des choses qui nous entourent dans le sens où on les découvre.
Ouais, j'aime beaucoup. En tout cas, un grand merci, Christopher. C'était vraiment intéressant notre échange. Donc vraiment un grand merci.
Avec plaisir.
Et j'invite les auditeurs justement à découvrir ton ouvrage Guérir l'impossible, paru chez Guy Trédaniel, que j'ai trouvé vraiment intéressant et très riche. Donc vraiment une belle découverte en tout cas. Donc merci.
Bien, merci beaucoup.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt !